Bonjour Bruno Verjus.
Bonjour.
J'ai omis de préciser que vous avez aussi 3 étoiles, vous avez 2 étoiles rouges, 1 étoile verte, et puis cette place dans le palmarès anglo-saxon de ce classement qui fait de vous l'un des tout meilleurs restaurateurs au monde. On va parler de votre parcours, de votre philosophie de la cuisine. Avant cela, lundi, il y a le palmarès du guide Michelin, la distribution d'étoiles ou leur retrait. Qu'est-ce que ce rendez-vous représente pour votre profession? Est-ce que c'est essentiel?
Je crois que c'est le grand rendez-vous de l'année, en fait. On voit le tout Paris des chefs et de la France même frissonner quelques semaines à l'avance. Des journalistes ou des influenceurs commencer à se jouer des pronostics, à dire voilà, un tel. Les pertes, malheureusement, sont annoncées avant. Donc on sait cette année... un restaurant qui a perdu sa 3e étoile, parce que finalement, ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'on voit le plus, le sommet de l'iceberg, donc c'est les fameux 3 triplement étoilés. Il y en a à peine 30 en France.
Comment perd-on sa 3e étoile?
Alors, c'est une drôle de question. Je ne sais pas, sans doute parce qu'on déplaît, peut-être parce qu'on affaiblit, peut-être parce qu'on n'a pas suivi l'époque aussi. Il y a un peu aujourd'hui, comme en toute matière, cette obligation de montrer qu'on est dans le coup et qu'on invente et qu'on crée. La France est toujours dans cette forme un peu de schizophrénie, c'est-à-dire que on aime récompenser ce qui est très classique, ce qui suit la philosophie depuis le début du XXe siècle de l'histoire française de la grande cuisine, c'est-à-dire les sauces, les plats construits, les choses millimétrées, découpées, taillés comme des buildings, un peu, vous voyez, il reste encore un peu ces scénarios d'avant où on construisait la cuisine comme on ferait un palais pour un prince, et en même temps on a envie aussi d'être dans le coup, c'est-à-dire de suivre d'une certaine façon ce que poursuit le World 50 Best, c'est-à-dire montrer qu'il y a 1000 tentatives, qu'il y a une vraie polysémie de la cuisine, et que c'est ça qui fait sens aujourd'hui, l'écriture de la belle cuisine du 21e siècle. Il faut être moderne.
Bruno Verjus, l'invité de la matinale de Radio Classique. Il est chef, il a créé Table en 2013 dans le 12e arrondissement à Paris. Est-ce que viser 1 étoile, puis 2, est-ce que c'est un chemin où ça vous tombe dessus sans que vous y ayez pensé?
Moi, je suis extrêmement atypique, donc ça m'est tombé dessus.
Vous aviez pas d'arrière-pensée. Vous disiez pas, je vais rentrer dans le club.
Mon arrière-pensée, mais c'était pas l'arrière-pensée, c'était la pensée principale, la pensée en premier lieu, c'était de nourrir. J'ai ouvert un restaurant parce que d'un seul coup, j'étais à la radio, j'étais à France Culture, et à un moment, je me suis dit, mais j'ai envie de nourrir et je vais ouvrir un restaurant avec un grand enthousiasme, je dirais, d'enfant, et si on l'analysait un peu rétrospectivement, je dirais avec un déni de réalité complet. Parce qu'ouvrir un restaurant, c'est tout sauf amusant, c'est compliqué, c'est difficile, c'est presque une épreuve, c'est beaucoup de travail auquel on n'est pas forcément habitué. Il faut être en cuisine pour concevoir ce que ça représente comme engagement physique et personnel. Et donc, j'ai voulu nourrir comme moi j'avais envie de manger. Je suis probablement aujourd'hui le seul, un des rares chefs au monde à être du côté de celui qui mange, à être avec le client. Ma cuisine est au service du client.
On y reviendra à cette philosophie qui consiste à nourrir. Je reviens au Michelin, moi. C'est aujourd'hui un pouvoir. Ce guide est un pouvoir. Est-ce qu'il adresse des messages à la communauté des chefs chaque année en attribuant ou en retirant des étoiles? Est-ce qu'il faut lire entre les lignes du palmarès?
Bien sûr qu'il faut lire entre les lignes du palmarès. Ce sera très intéressant de voir effectivement ce que seront les résultats cette année, puisque on a envie tous de pronostiquer le Michelin chaque année, de savoir, de dire pourquoi, comment, etc. Moi, je vois une année un peu particulière, c'est-à-dire une année... c'est l'année des Jeux Olympiques en France. Donc, l'image qui va être donnée probablement par le Michelin, parce que ce sera probablement leur ligne éditoriale, peut-être même une ligne éditoriale qui s'est imposée à eux, ce sera de récompenser les grandes maisons, les institutions, les monuments. Vous voyez ce qui, dans l'image mondiale, fait la France, probablement.
Bruno Verjus, quand il y a quelques années, c'était il y a 4-5 ans, je crois, le Michelin enlève sa 3e étoile à Bocuse, qui a été le maître incontesté de la cuisine française et mondiale pendant de très nombreuses années, au même titre qu'Escoffier, auquel vous pensiez tout à l'heure, au début du XXe siècle. Quel signal envoie le Michelin à la communauté des chefs ?
C'est assez compliqué à analyser parce que Bocuse, on peut penser que c'est justement c'est la matrice de la grande cuisine française dans la lignée évidemment d'Alain Chapelle par exemple. Vous voyez, donc ce sont eux-mêmes des monuments et enlever la troisième étoile à Paul Bocuse, c'est sans doute dire à tous ces chefs. Il faut bien voir que les chefs trois étoiles aujourd'hui, ils sont pas très jeunes. Hein, ils ont déjà accompli des carrières, il y en a qui ont 35 ans de 3 étoiles, 40 ans, voilà. Et donc c'est leur dire, attention messieurs, rien n'est acquis jamais, même si vous étiez Paul Bocuse, voyez bien, on peut la perdre. Et donc c'est une façon de mettre un petit coup de pied, je dirais, chez tous les grands barons des triplement étoilés, en leur disant, attention, allez, il faut travailler.
Bruno Verjus, invité de la matinale, il est chef gastronomique. Le restaurant s'appelle Table, 2 étoiles rouges, 1 étoile verte qui est l'étoile écolo, si je puis dire. Bruno Verjus, on a parlé dans cette matinale beaucoup de guerre, avec évidemment l'intervention du président de la République hier. Le coup de feu, les réquisitions, les chefs avec des étoiles comme des galons sur leurs épaulettes. La cuisine s'est nourrie de culture militaire au début du XXe siècle, c'est encore ça ?
C'est toujours ça, c'est amusant parce que, évidemment, Escoffier, dans un livre publié chez Flammarion en 1903, il édicte exactement ce que doit être l'organisation d'une cuisine. Il est vrai qu'à l'époque, je pense que l'organisation de la cuisine, elle est totalement chaotique et elle ne permet pas justement d'aller vers l'excellence. Et lui pense à l'excellence, on est dans cette période très particulière du début du XXe siècle, et donc l'excellence absolue, ce sont les militaires. Et donc il va aller transposer complètement l'organisation militaire en cuisine, considérant que d'une certaine façon la demande des clients, c'est un peu comme la guerre. Donc il faut prévoir des munitions, ça veut dire avoir beaucoup de mise en place, parce qu'il va y avoir ce fameux coup de feu dont on parle toujours d'ailleurs, hein. Je crois qu'en ce moment à la télévision il y a les émissions de un peu de télé-réalité sur la cuisine, et je pense qu'on est encore dans ces langages là. Et comme moi, totalement autodidacte, ne connaissant pas l'organisation de la cuisine autrement que par les livres, mais pas dans sa réalité fonctionnelle, j'ai créé quelque chose de complètement différent. Et donc, je suis en train de la théoriser un petit peu, parce que je pense que c'est important de dire, voilà, au XXIe siècle, même si, effectivement, peut-être qu'on va replonger dans la guerre, mais au moins, soyons certains que la cuisine, elle, n'y replongera pas, parce qu'en cuisine, il vaut mieux faire l'amour que faire la guerre.
Alors, je vous cite, dans votre dernier livre publié il y a 2 ans, ça s'appelait « L'art de nourrir ». Vous écrivez ceci, « Je construis mes plats comme des promenades, plus encore comme des paysages oniriques. Chaque bouchée me projette dans une balade à mi-chemin entre mémoire et fantasme. Plus loin, vous dites, pour réussir une assiette, le secret est de la préparer comme pour la personne qu'on aime, l'ami, la mère, l'amoureuse, l'amant ou l'inconnu qui vous honore de sa présence. Faites l'amour en cuisine, pas la guerre », c'est ce que vous nous dites ?
Oui, je pense que cette organisation, elle engendre évidemment la violence en cuisine, le sexisme et des rapports qui sont pas les rapports qu'on a envie d'entretenir aujourd'hui. Vous savez, la narration, c'est fondamental, c'est mon paysage, c'est ma culture, c'est ce que j'ai envie d'écrire. J'écris des petites histoires dans chaque assiette, et puis, comme c'est un menu, chaque assiette raconte elle-même une histoire plus complexe et à plusieurs voix. Mais en cuisine, si on n'a pas une équipe en cuisine, une équipe en salle, qui est pleine de bonheur, qui est épanouie, qui est heureuse, comment voulez-vous transmettre ce bonheur-là à nos clients ? Et en réalité, nous sommes des marchands de bonheur.
On parle de guerre, on va parler de géopolitique. Est-ce qu'il y a une géo-gastronomie aujourd'hui ? Quels sont les chefs étrangers ou les pays étrangers qui vous inspirent le plus, Bruno Verjus ?
Alors, il y a une géopolitique évidemment de la cuisine. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années en arrière, quand le Danemark s'est rendu compte qu'effectivement la cuisine pouvait être un vecteur absolument invraisemblable de tourisme. Et donc on a inventé à l'aide d'un garçon formidable qui est René Redzepi, Noma. Et ce Noma a réinventé une cuisine qui n'existait pas et qui a même été jusqu'à faire naître des produits, des cultures, des pêches.
La France avait arrêté le principe que la cuisine était un développement de tourisme et de développement des territoires très important.
La France était, je dirais, la matrice de ces histoires-là. Et depuis, la plupart des pays du monde se sont emparés de ça parce que, évidemment, ça devient un enjeu économique absolu. Donc là, on a vu, par exemple, les derniers récompensés, un garçon formidable, Virgilio Martinez, au Pérou, à Lima, un restaurant qui s'appelle Central, qui lui-même a conduit à peu près le même travail sur la recherche et l'évaluation de tout ce qu'il y avait au Pérou. Et certes, il y avait énormément de choses, mais on le voit aujourd'hui dans des endroits dans lesquels lesquels il n'y a aucun produit, aucune cuisine vraiment, etc., comme Dubaï ou comme prochainement l'Arabie Saoudite qui pense à investir des millions et des milliards même probablement pour devenir une des premières destinations de cuisine.
Bruno Verjus, je voudrais qu'on parle un peu de vous parce que vous avez un parcours qui peut intéresser tous ceux qui se cherchent ou qui se réinventent et qui nous écoutent. Ça peut aussi intéresser les jeunes gens qui se passionnent de plus en plus pour la cuisine. Je le résume, ce parcours. Vous faites médecine, vous faites 5 ans de médecine, vous arrêtez en 5e année, vous partez en Chine où vous allez rester 20 ans et monter une entreprise qui vend du matériel médical. Vous allez revenir en France, vous allez devenir chroniqueur gastronomique, vous l'avez dit, puis en 2013, vous ouvrez un restaurant, tel un autodidacte, parce qu'il me semble que vous n'avez jamais pris un cours de cuisine.
Non, jamais.
C'est incroyable, vous dites ça avec la banane et un sourire aux lèvres, ben, comme l'innocent.
En fait, j'ai pris tous les cours de cuisine possibles, j'ai beaucoup mangé dans beaucoup de restaurants, et c'est finalement à partir de ça que j'ai construit ma matrice, de savoir d'abord comprendre ce que j'aimais manger, comprendre pourquoi j'aimais manger certaines choses et pas d'autres, et comprendre que ce qui m'intéressait, la culture chinoise venant évidemment appuyer tout ça, et le rapport holistique au monde, que j'aimais le vivant, que j'aimais manger des choses qui me nourrissait l'âme autant que le corps.
On va vous laisser repartir, parce que évidemment j'imagine que demain vous êtes ouvert, qu'il y a des semaines d'attente pour réserver. Évidemment aujourd'hui, il y a le coup de feu, le fameux. Mais je ne vous laisse pas partir sans que vous nous donniez une recette du dimanche facile, mais à la Bruno Verjus, pour réussir par exemple, tiens, un poulet.
Le poulet, ça tombe bien, parce que c'est quand même les volailles, c'est ce que je préfère au monde. Je pense que la réussite de la recette, elle va consister d'abord à aller dégoter dans un marché fermier une belle volaille de ferme, même si elle est un peu ferme, justement qu'elle a pas été élevée pour faire des suprêmes un peu un peu préfabriqués, mais une belle volaille de ferme. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est de la farcir, parce que il faut toujours combler la cavité de la volaille quand on la rôtit, et vous allez la farcir de façon un peu particulière, c'est-à-dire avec une petite farce légumière, quelques champignons de couche par exemple, mais vous allez rajouter des algues. Alors soit vous êtes en bord de mer et c'est assez facile d'aller mettre des algues à l'intérieur de la volaille, soit vous allez aller dans un petit magasin acheter des algues nori, des petites algues comme ça, et puis vous allez rôtir cette belle volaille. Et vous allez voir, l'algue, d'un seul coup, va apporter ce qu'on appelle un umami, c'est-à-dire cette saveur suprême qui rend toute chose délicieuse.
Si on n'a pas d'algue, on met quoi? Si on n'a pas d'algue?
Si on n'a pas d'algue, on peut mettre quelque chose qui peut faire penser à ça. On va faire frire du persil. Vous voyez, on va prendre une botte de persil, et puis on va la faire frire. Et le persil frit prend des notes un petit peu maritimes, et on va farcir la volaille avec le persil frit.
Bruno Verjus, que je remercie d'être venu nous voir sur Radio Classique ce matin, chef étoilé, fondateur de Table, auteur de L'Art de Nourrir, c'est paru il y a 3 ans chez Flammarion. Un autre livre à suivre, vous reviendrez nous en parler, Bruno Verjus. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno, et puis Nos Esprits Libres. Aujourd'hui, Cécile Cornudet des Échos et Jean-Marie Colombadi, fondateur de Slate et ancien directeur du Monde. J'ai envie d'un poulet. Merci Bruno Verjus, Radio Classique.